Chapitre 33.
Je ne vois toujours pas le rapport avec les cadavres retrouvés dans la Marne, marmonna Paul.
Edmé s'en foutait. Une seule pensée le tenaillait, si intense, si ardente qu'elle étouffait toutes les autres. Sylvaine. Il partirait tranquille, heureux presque, si elle sortait indemne de son opération. Et si sa propre mort était le prix à payer pour l'intégrité physique de Sylvaine, alors il consentait au sacrifice. Il s'effacerait sans une plainte de la surface de la terre. Les deux flics n'avaient pas encore reçu la visite de Calixte et de ces tarés dans la geôle où on les avait enfermés. Les hommes encagoulés les avaient fait attendre un moment dans la voiture. Puis, après que deux d'entre eux étaient allés prendre leurs ordres dans la maison, ils les avaient conduits dans les écuries et enfermés dans une ancienne stalle pourvue de barreaux et imprégnée d'une tenace odeur de crottin. Cette fois, on ne les avait pas enchaînés. Calixte, la chatte cruelle, reconnaîtrait sans aucun doute Edmé et se vengerait de la mort de ces deux hommes dans le pavillon de Nogent, et du troisième, celui qui avait tiré sur Sylvaine, abattu dans l'allée de terre. Il n'en avait pas parlé à Paul pour ne pas l'affoler. Lui-même ne parvenait pas à s'en inquiéter. Il flottait dans la pensée de Sylvaine. Le con, tout de même, l'avoir côtoyé pendant 6 ou 7 ans sans avoir deviné un seul instant qu'elle avait le pouvoir exorbitant de le ramener à la vie. Il avait cru sa carcasse vide, rongée par l'épuisement, le renoncement, le temps. Il avait suffi d'un baiser enchaîné dans une cave sombre pour le rebrancher sur le battement de son cœur, repêcher son regard dans l'abîme. Il était sur le point de tout perdre et n'en éprouvait pas de regret. Un rayon de lumière était tombé de la lucarne entrebâillée par Sylvaine. Il avait entrevu le possible. Il s'était réconcilié avec lui-même. Assis sur le sol de ciment, adossé à la cloison de bois, il lui manquait seulement une bonne cigarette, la saveur âpre de la vieille compagne dans la gorge et les poumons. Leur geôlier ne leur avait rien laissé. Pas un paquet de clopes, pas une bouteille d'eau, pas un truc à grignoter. Paul, lui, tournait comme un ours en cage. Ses yeux sombres jetaient des éclats tragiques dans l'obscurité. Il regrettait de s'être fourré dans cette embrouille. Il regrettait de ne pas être parti plus tôt de la maison de la vieille femme de Nogent. Il regrettait toutes les décisions qui s'étaient emboîtées pour le conduire dans cette nasse. « Putain de merde, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de là ?»«
Absolument rien pour l'instant. » répondit Edmé. «
Je comprends pas comment tu peux rester aussi calme. Ces types, c'est tout sauf des amateurs. »
« J'en ai déjà eu un petit aperçu à nos gens. On n'a pas d'autre choix que d'attendre et de saisir la moindre chance si elle se présente. Je serais tout de même curieux de savoir à quoi servent les caissons qu'ils ont déchargés avec tant de précautions. »
Paul empoigna deux barreaux de la porte et le secoua avec rage. Le métal vibra, gémit, mais ne bougea pas d'un pouce. Des bruits s'échouaient dans la pénombre de la stalle. Moteurs, crissements, brouhaha, cris, rire.
« On ne peut compter sur rien d'autre que la chance, » ajouta Edmé.
« La chance ? La chance ? Tu te fous de ma gueule, le miso ? Deux gouilles à des armées contre une horde de tueurs, ça fait combien de chances de s'en sortir, à ton avis ?»«
Pas beaucoup. Le sixième de groupe avait raison. Mais Sylvaine et Edmé n'avaient pas eu de meilleure probabilité de s'en tirer dans la cave du pavillon de Nogent.
Il existait peut-être un autre ordre, un ordre invisible. » Une chambre secrète où s'écrivaient les destinées, où les pouces se levaient et s'abaissaient. Qui décidait de tout ça? À quoi bon s'en soucier? Quand il voyait défiler sa vie, Edmé se rendait compte qu'il n'avait eu quasiment aucune influence sur son cours. Quoi qu'il eût décidé, les fils s'étaient enchevêtrés pour en dessiner les figures imposées. Il n'avait pas vraiment choisi sa carrière dans la police, son mariage, son divorce, sa lente érosion. Des portes s'étaient fermées devant lui, d'autres s'étaient ouvertes. Où était le libre arbitre là-dedans?
Manon va se ronger les sangs.
Au bord des larmes, Paul. Il n'avait jamais été confronté à la perspective de sa propre mort. Il avait vécu, comme tous les êtres humains, dans l'illusion qu'il n'y avait pas de fin. Il prenait conscience que le manège pouvait s'arrêter d'un moment à l'autre, brutalement. Sa relation avec sa compagne, ses grands plaisirs, ses petites misères, ses crédits, ses projets d'avenir. La lame tranchante était posée sur le fil de sa vie.
« Calme-toi, Paul. »«
T'en as de bonne, toi. Tu t'en fous, t'as personne dans ta vie. »
Les mots de Paul claquèrent comme une gifle. En d'autres circonstances, Edmé se serait levé pour lui foutre son poing dans la gueule. Il se contenta de le fusiller du regard.
« Qu'est-ce que t'en sais ?»
Paul détourna les yeux.
« Enfin, t'avais personne aux dernières nouvelles. »
Sa voix, habituellement tonitruante, s'était muée en un filet sonore à peine audible. Il ressemblait maintenant à un petit garçon puni, malheureux. Seule sa barbe naissante, très noire, et quelques fils gris dans sa chevelure proclamaient qu'il était un adulte.
« Les temps changent, » murmura Edmé.
Paul releva la tête et posa sur son équipier un regard aigu, en partie lavé de ses peurs.
« Sylvaine,
hein ?»
Tout le groupe savait qu'elle était amoureuse de toi.
« Tous ?»«
Sauf moi. »
« Normal.
Comme on dit, c'est toujours le principal intéressé qui est le dernier à savoir. Je comprends maintenant pourquoi tu tenais tant à avoir de ces nouvelles hier. »
Paul secoua la tête.
« Sylvaine en a assez bavé, elle mérite bien un peu de bonheur. »
« Toi aussi, ta copine aussi. Tout le monde sur cette terre mérite un peu de bonheur, mais la distribution n'est pas toujours assurée. »«
Jamais, tu veux dire ?»
Ou peut-être qu'on ne sait pas reconnaître quand on a reçu sa part.
Ils restèrent un long moment silencieux, plongés dans leurs pensées, laissant l'obscurité subtiliser les lieux. Edmé percevait le souffle, l'odeur, la chaleur de Sylvaine. Phénoménale, la puissance évocatrice de l'esprit. Il s'inventait une vie, mille vies avec elle, échafaudait des bonheurs paisibles, des maisons pleines d'enfants, des enfants, lui, Edmé, le flic proche de la retraite, le vieux volcan. L'homme qui s'était renié, qui n'avait jamais envisagé de laisser de traces.
La voix de Paul s'éleva dans le silence comme une complainte funèbre. Le plus terrible pour ceux qui restent, c'est de ne jamais retrouver les corps. Ils continuent d'espérer, ils s'empêchent de vivre. Manon est jeune, belle, elle a largement le temps de refaire sa vie.
Hé, on n'est pas encore mort, protesta Edmé.
Un grincement de porte retentit, suivi de bruits de pas et d'une respiration sifflante. Une silhouette s'approcha de la stalle et se colla contre les barreaux. Paul se rua sur le nouvel arrivant avec la férocité d'un fauve.
« Pas trop tôt, on commençait à... »
« Taisez-vous, écoutez-moi sans m'interrompre, je n'ai que très peu de temps. »
L'homme avait parlé à voix basse, avec un léger accent, un débit de mitraillette, banlieusard peut-être. Edmé se releva et s'approcha à son tour de la grille. Il ne discernait pas le visage de leur interlocuteur, dissimulé sous un col relevé et un chapeau à large bord.
« Je ne peux pas vous délivrer maintenant, trop de risques. Je reviendrai au milieu de la nuit.
« Vous êtes qui, bon Dieu ?»
aboya Paul. « Aucune importance, je suis de votre bord. »«
Qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura Edmé.
« Pas le moment d'en parler, il faut d'abord vous sortir de ce nid de crabe. »«
Ouvrez cette putain de grille alors !»
gronda Paul. « Pas maintenant, tout à l'heure, tenez-vous prêts. »
L'homme s'éloigna dans l'obscurité. Le bruit de ses pas s'évanouit peu à peu, puis, après un léger grincement de porte, la rumeur habituelle reprit possession du bâtiment.
« Tu vois, on n'est pas encore mort, » lança Edmé avec un petit sourire en coin.
Paul haussa les épaules.
« Il se fout peut-être de notre gueule, ce gouillard !»
Reste plus qu'à patienter. L'attente recommença, interminable, dans les ténèbres qu'égratignaient des rayons de clarté lunaire tombant de tuiles transparentes. Les deux flics ne parlaient pas. L'espoir était revenu, et avec lui, la peur atroce de le voir s'éteindre, une flamme ténue à la merci des courants d'air. Rien d'autre à faire que rouler des pensées tumultueuses, envisager des solutions, louvoyer entre les doutes. La porte s'ouvrit soudain, avec fracas cette fois, et un petit groupe s'engouffra dans les écuries, précédé d'éclats de voix et de rires. Les lampes réparties sur les murs s'emplirent d'une lumière crue, éclairant le couloir central entre les rangées de stalles. Quatre hommes et une femme s'entassèrent devant la grille, yeux brillants et ricanements de défoncés. Calixte, toujours vêtu à la mode gothique, maquillage blafard et charbon de vampire, quelques-uns de ses sbires, crêtes iroquoises, tatouages sur le crâne, Santiago, cuir et jean. L'index de Calixte se pointa sur Edmé.
« Fallait pas abuser de ta chance, le keuf, » dit-elle d'une voix embrumée par l'alcool. « Elle a fini par se retourner contre toi. »
L'un des sbires, un homme aux bras noueux et à la face couturée de cicatrices, secoua les barreaux avec une rage hystérique.
« On lui fait la peau, cet enculé ! Il a descendu trois des nôtres à nos gens !»
Le sourire de Calixte lui retroussa le nez, lui rendant son air familier de chatte cruelle.
« Tu crois pas si bien dire. Sa peau, on va la lui arracher centimètre carré par centimètre carré. Je veux l'entendre gueuler pendant des heures. Je veux transformer en enfer chacune de ses dernières secondes. »
« On commence tout de suite !»
Les yeux jaunes de Calixte se baladèrent un moment sur les deux flics. Edmé se demanda quel genre de saloperie elle avait subi, enfant, pour transpirer une telle haine. On attend que les autres soient partis. Ils sont délicats, ils s'effarouchent d'un rien.
Les pauvres chéris, ils savent pourtant bien ce qu'on fait des déchets qu'ils nous chargent d'éliminer.
C'est pas pour ça qu'ils ont envie d'y assister. Chacun sa spécialité.
Ils ont pas confiance, en tout cas. Laissons des hommes à eux pour la surveiller. Leur foutue machine. Pareil qu'il y a un paquet de gens qui veulent la leur piquer.
Bah, leurs gorilles ne nous dérangeront pas.
Ils se turent, comme s'ils craignaient tout à coup d'en dire trop devant les deux flics. Puis ils s'excitèrent en poussant des sifflements et des hurlements hystériques, secouant les barreaux, tapant des pieds sur le sol. Edmé pria le ciel, vieux réflexe chrétien, de ne pas tomber entre leurs pattes. Leurs regards, leurs vociférations, leurs stridulations promettaient des supplices inhumains, des souffrances terribles. Paul s'était recroquevillé au fond de la stalle, les yeux rivés au sol, la tête entre les mains. Leur manège se prolongea jusqu'à ce que, sur un signe de Calixte, ils éteignent les lumières et sortent de l'écurie, laissant Paul et Edmé dans un tel sentiment de dégoût et de peur qu'ils ne purent articuler le moindre mot un long moment après que le silence fut retombé sur la nuit.
« Des putains de tarés !» parvint enfin à articuler le sixième de groupe.
« Des maniaques de la torture. Ils sont apparemment chargés d'éliminer certaines personnes, mais ils le font à leur manière, en prolongeant le plaisir. »
Chacun a sa spécialité, comme l'a dit Calixte.
Tu te souviens du corps de la femme que Sylvaine et moi avons découvert dans le sous-sol du pavillon de Nogent, celui que les plongeurs ont retrouvé dans la Marne? Paul se frotta les yeux.
Pas beau à voir.
Le temps se suspendit, rythmé par les craquements de la charpente et les rumeurs lointaines. Paul émettait de temps à autre un soupir ou un gémissement indiquant qu'il passait par toutes les phases de l'espoir et l'abattement. Edmé, lui, ressentait une étrange sérénité. Son inquiétude au sujet de Sylvaine s'était évanouie. Il savait, oui, il savait que l'opération s'était parfaitement déroulée, qu'elle ne garderait aucune séquelle de sa blessure à la colonne, qu'elle resterait la jeune femme énergique, vivante, sensuelle, qu'il avait embrassée dans le sous-sol du pavillon de Nogent. L'image de Sylvaine lui renvoyait quelque chose d'apaisé, de lumineux et de doux. Le temps et la distance s'étaient abolis. Il était en prise directe sur son âme. L'homme au chapeau revint au milieu de la nuit. Son intrusion, pourtant discrète, réveilla Edmé en sursaut. Il avait glissé dans le sommeil sans s'en apercevoir, malgré les douloureuses morsures qu'il s'infligeait aux lèvres et aux joues pour rester éveillé. Il se demanda quelques secondes s'il ne rêvait pas, si les cliquetis, les grincements et les mouvements autour de lui étaient bien réels. Paul lui secoua l'épaule.
Pas le moment de pioncer le miso.
La grille s'ouvrit dans un grincement étouffé. Les deux captifs se ruèrent dans l'entrebâillement. La clarté lunaire révélait les arêtes des stalles et des matériaux entreposés dans la grange. L'homme au chapeau prit le temps de refermer la porte à clé avant d'indiquer, d'un geste du bras, la direction à suivre et entraîna les deux flics vers une porte basse en partie dissimulée par un panneau de bois. Il tenait une arme dont la coque grise et lisse ressemblait à du plastique. L'un de ces pistolets nouvelle génération, dont la légèreté n'avait d'égal que la puissance et la précision. La porte basse donnait sur un espace gravillonné, dégagé, parsemé de buissons, d'arbustes et de massifs fleuris. La lune, presque pleine, trônait dans un ciel fourmillant d'étoiles et se reflétait plus loin sur la surface d'un petit étang bordé de roseaux et surmonté d'une passerelle légèrement voûtée. Une brise légère diffusait des parfums de fleurs et des senteurs plus sourdes d'humus et de fougères. L'homme au chapeau s'arrêta et resta quelques secondes attentif avant de se remettre en marche en direction de la forêt. Edmé ne distinguait pas son visage dans l'entrebâillement de son col relevé. Les crissements de leurs semelles sur les gravillons éclataient comme des explosions dans le silence nocturne. Ils contournèrent l'étang, foncèrent en direction des premiers arbres, distants d'environ 50 mètres, et arrivèrent devant une clôture de bois. Paul s'avança vers les rondins de bouleaux. L'homme au chapeau l'arrêta d'un geste. Un système d'alarme et un passage plus loin. Ils longèrent la clôture, s'enfonçant vers l'arrière de la propriété, marchant sur une bordure d'herbe qui étouffait le bruit de leurs pas. Les premiers aboiements retentirent alors qu'ils approchaient d'une ouverture dans la clôture. Des hurlements leur répondirent en écho.
« On est repérés, on fonce !»
Oubliant toute précaution, les trois hommes s'engouffrèrent dans l'ouverture et s'élancèrent sur le terrain dégagé qui les séparait de la forêt.
« Suivez-moi !» souffla l'homme au chapeau. « Une voiture nous attend dans le chemin !»
Edmé se ressentit presque aussitôt des privations des deux jours précédents. Elle venait amoindrir une forme physique, déjà déplorable. Le souffle lui manqua rapidement. Une douleur aiguë lui cisailla le ventre et la poitrine. Il serra les dents pour ne pas se laisser distancer par les deux ombres qui volaient devant lui. De temps à autre, l'homme au chapeau lançait un regard par-dessus son épaule. Les chiens se rapprochaient à une vitesse alarmante. Leurs aboiements s'échouaient déjà sur les talons des fuyards. Edmé trébucha.
se rattrapa de justesse. Douleur vive à la cheville, point de côté. Faillit renoncer, pensa à Sylvaine. Ils atteignirent enfin l'orée de la forêt. Des phares s'allumèrent plus loin, habillant de lumière éblouissante les troncs, les fougères et les buissons. L'homme au chapeau se retourna pour scruter l'obscurité, le bras tendu devant lui. Son pistolet cracha une première fois, sans un bruit, une lueur brève et rageuse. Une vingtaine de mètres plus loin, une forme sombre surgit de la nuit et roula sur la mousse éclairée par la lumière des phares. Un chien, le crâne disloqué par la balle. Un voile tomba sur les yeux d'Edmé. Quelqu'un le tira par le bras. Paul, sans doute.